pourquoi sommes-nous présents ce matin dans cette église? Qu'est-ce qui nous a poussé à venir ici alors que nous aurions tant d'autres choses à faire en ce dimanche matin? Nous aurions tant de bonnes raisons de ne pas prendre le temps de venir célébrer notre Dieu ici même en ce moment. Une des raisons pourrait être, par exemple, la nuit un peu courte que nous avons passée si nous avons supporté les bleus hier soir. Mais voilà, nous sommes là, nous sommes présents. Et la réponse à cette question, elle nous vient de Jésus lui-même. Venez à moi. Si nous sommes venus dans cette église, c'est pour répondre à une invitation. Et à chaque fois que nous vivons quelque chose dans notre vie chrétienne, souvent nous croyons que c'est nous-mêmes qui avons l'initiative, mais en réalité, c'est la réponse à une invitation que Jésus nous fait. Il y a parmi nous des parents qui demandent le baptême pour leur enfant. Et ils se disent sans doute, mais c'est nous-mêmes qui avons fait cette démarche. C'est nous-mêmes qui choisissons de faire baptiser notre enfant. Mais en réalité, votre demande, elle rejoint d'abord une invitation de Jésus lui-même. C'est lui qui vous incite à faire grandir votre enfant dans la foi. C'est lui qui vous incite à découvrir l'amour infini de Dieu pour vous-même, pour votre famille. Oui, toute vie chrétienne, ce n'est pas d'abord nous-mêmes qui sollicitons Dieu, mais c'est lui qui nous invite à le rencontrer. Pourquoi Jésus nous invite-t-il à le rejoindre? Aujourd'hui, pour une raison précise, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Venez à moi car moi je porterai votre fardeau, car moi je vous procurerai le repos. Jésus nous dit que si nous répondons à l'invitation qu'il nous fait, si nous lui faisons une place dans notre vie, s'il a de l'importance pour nous, alors il va venir nous délivrer de ces fardeaux que nous portons et qui quelquefois nous empêchent d'avancer, nous empêchent de progresser, nous empêchent de grandir, que ce soit dans notre vie de tous les jours, dans notre vie humaine, mais que ce soit aussi dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu, dans nos comportements les uns avec les autres. Quels sont ces fardeaux que Jésus propose de déposer à ses pieds pour que lui-même les porte et pour que nous puissions trouver le repos? Un des fardeaux qui quelquefois nous paralyse, nous empêche d'avancer, c'est notre conception de Dieu, notre manière de voir notre relation avec lui. Il nous arrive encore de nous situer dans une relation donnant-donnant avec Dieu. Seigneur, je fais les choses bien comme il faut, alors s'il te plaît, en échange de tout ce que moi-même je fais, est-ce que tu pourrais me donner ceci ou cela? Pour le dire autrement, il nous arrive quelquefois de regarder notre vie chrétienne, notre relation à Dieu, notre manière de nous comporter, un peu comme une obligation. Tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Et en fonction de ce que je fais, j'obtiens des bons points, ou en fonction de ce que je ne fais pas, j'obtiens des mauvais points, et j'ai comme un dernier point que le Seigneur vient valider ou qu'il ne vient pas valider. Or, Jésus nous dit tout le contraire. Le premier fardeau dont il nous délivre, c'est l'obligation stricte de toute une série de règles, de toute une série de lois, de toute une série de commandements qui nous font oublier la raison première et essentielle pour laquelle il nous faut nous comporter de telle ou telle manière. Au fond, ce que Jésus nous rappelle, c'est que la vie chrétienne, la foi en Dieu, la relation avec le Père, ce n'est pas d'abord des choses à faire, mais une communion, une intimité, une proximité à vivre avec Dieu lui-même. Et Jésus nous fait entrer dans cette intimité, que lui-même cultive avec son Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils. Et dans ce verbe connaître, il y a beaucoup plus que ce que nous-mêmes nous pensons ou nous croyons. Connaître, c'est entrer en relation, c'est entrer en communion, c'est découvrir l'intimité même de l'autre. C'est l'autre qui se révèle à moi dans tout celui qu'il a de plus beau, de plus précieux, de plus noble et de plus grand. Et c'est de cette relation-là que Jésus vit avec son Père. C'est de cette communion d'amour qui existe entre le Père et le Fils que Jésus nous révèle ici même. Et non seulement Jésus nous dit « Voilà ce que moi-même je vis avec le Père, voilà ce que le Père vit avec moi », mais Jésus nous dit que cette relation, le Fils peut nous la révéler. C'est-à-dire que c'est dans cette relation que nous sommes invités à entrer. Nous sommes faits pour une relation interpersonnelle avec Dieu. Nous sommes faits pour entrer dans cette communion d'amour qui existe au sein même de Dieu. Et demander pour le baptême pour son enfant, ce n'est pas autre chose que cela. C'est vouloir pour lui qu'il découvre qui est Dieu, communion de personnes, relation interpersonnelle d'amour, et lui permettre, nous permettre nous-mêmes d'entrer dans cette communion divine à laquelle nous sommes tous appelés. Oui, Jésus désire nous faire grandir en liberté. Nous sommes faits pour ne pas être esclaves sous la loi, sous des commandements à être respectés, mais être libres sous la grâce à entrer dans cette relation interpersonnelle avec Dieu et avec les autres. Voilà le premier fardeau que nous pouvons déposer au pied de Jésus. Voilà ce à quoi il nous invite. Voilà la liberté qu'il nous propose de vivre. Mais nous pouvons aussi être habiter ou marcher sous le poids d'un autre fardeau, une autre réalité qui vient entraver notre vie. C'est quelquefois la tendance à aller vers le découragement. Cette petite phrase que nous entendons en nous-mêmes, à quoi bon, et qui quelquefois nous fait baisser les bras. À quoi bon continuer à faire des efforts pour préserver notre maison commune quand nous voyons ce que nous vivons en ce moment? À quoi bon vouloir vivre en communion les uns avec les autres, être artisans d'unité, à promouvoir la paix, quand on voit tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui? Et nous pourrions multiplier les exemples. Et ce à quoi bon risque de nous décourager, risque de nous faire baisser les bras, risque de nous faire douter de la présence même de Dieu à notre monde et dans nos vies. Face à ce à quoi bon, face à ce découragement, il y a une promesse merveilleuse que Dieu nous fait, qu'il fait au peuple d'Israël, dont la première lecture exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Cette joie, cette action de grâce, cette louange est là une raison profonde. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux. Face au découragement qui quelquefois peut nous guetter, nous sommes invités à vivre de cette espérance à laquelle Dieu nous invite. Il vient ton roi, il est juste et victorieux. Et nous savons que quand Dieu fait une promesse, il la réalise. Si nous entendons la description de ce roi juste et victorieux qui vient, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse, nous souvenons que c'est comme cela que Jésus est entré à Jérusalem, acclamé par la foule, avant son arrestation, sa passion, sa mort et sa résurrection. Voilà la promesse que Dieu fait à son peuple de ne jamais désespérer de lui, de continuer à être habité par une espérance en ses desseins bienveillants, elle s'est réalisée en Jésus lui-même qui vient accomplir la promesse. Mais si elle s'est réalisée en Jésus, elle ne s'est pas réalisée totalement. Elle est encore en réalisation aujourd'hui pour nous-mêmes. Car nous le savons, la guerre, la violence, tout cela est malheureusement encore d'actualité dans notre monde et dans nos sociétés. Et que donc, ce que Dieu réalise en Jésus est encore une promesse à venir. Et nous avons à ne jamais désespérer de cette promesse. Car Dieu l'a déjà réalisée, Dieu la réalise, Dieu va la réaliser. Oui, Jésus nous invite à grandir dans l'espérance, à ne pas lâcher cette vertu que lui-même nous donne, car elle nous permet de lutter contre toute forme de désespoir et de découragement. Voilà un autre fardeau dont Jésus lui-même vient nous libérer. Et puis, il y a quelquefois un troisième fardeau que nous portons, qui peut être un obstacle dans notre vie, dans notre relation avec les autres et avec Dieu. Et ce fardeau, il a un nom qu'il faut accepter de nommer, ce que nous appelons le péché. Il ne faut pas avoir peur de ce mot, mais il faut l'utiliser avec réalisme. Hier matin, au cours de la préparation au baptême avec les parents qui sont présents dans cette église ce matin, nous avons échangé sur ce que réalisait le baptême en profondeur dans le cœur de celui qui le reçoit. Il le guérit de ce que nous appelons le péché originel. Voilà une réalité que nous avons du mal à comprendre, qui nous fait peur, que nous avons du mal à saisir. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire péché? Ça veut dire rater la cible. Ça veut dire passer à côté. Ça veut dire qu'il nous arrive dans notre vie de poser des actes que nous pouvons qualifier de mauvais, qui ne nous rendent pas mauvais nous-mêmes en profondeur, mais qui font que nous sommes tout à fait ajustés à ce que Dieu attend de nous. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Et viser à côté de la cible, c'est nous détourner de Dieu et ne pas vivre pleinement ce à quoi il nous appelle et il nous invite. C'est cet égoïsme qui quelquefois nous guette, c'est cet orgueil qui est présent en nous, qui fait qu'il nous arrive de ne pas faire le bien que nous voulons faire pourtant, que nous désirons pour nous-mêmes, pour les autres, et qu'il nous arrive de poser des actes mauvais que pourtant nous n'aimerions pas faire. Mais vivre sous le péché, c'est ce que Paul appelle vivre sous l'emprise de la chair. Mais face à cela, il y a un remède merveilleux et extraordinaire, grandiose, que Paul lui-même nous donne. Il nous invite à ne pas vivre sous l'emprise de la chair, mais à vivre sous l'emprise de l'esprit. Il faudrait relire le chapitre 5 de la lettre aux Galates, dans laquelle Paul nous décrit les fruits que l'Esprit Saint porte en nous. L'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi et quelques autres. Oui, n'ayons pas peur de demander à Jésus d'être rempli de l'Esprit Saint pour lutter contre le mal, pour ne pas être sous l'emprise de la chair, mais vivre sous l'emprise de l'Esprit. C'est ce troisième fardeau, celui du péché, dont Jésus vient nous libérer et nous guérir en nous donnant son Esprit Saint, cet Esprit que lui-même nous donne pour avancer libre sous la grâce en enfant bien-aimé du Père. Oui, vivre avec Dieu, c'est répondre à une invitation. Et cette invitation que Dieu nous fait, elle nous permet de grandir en humanité, de grandir aussi en divinité dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu, dans nos relations les uns avec les autres. Parce que en Jésus, Dieu nous permet de grandir dans cette relation personnelle qu'il veut établir avec nous. En Jésus, Dieu nous permet de garder l'espérance et d'avancer avec confiance dans notre vie. En Jésus, Dieu nous permet d'être remplis de l'Esprit Saint et de porter les fruits que lui-même désire que nous portions. Amen.